De l'Apocalypse, chapitre 2e, verset 18. Et à l'ange de l'assemblée qui était à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Chapitre 2, verset 6. Tu as ceci que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Nous avons vu en terminant l'église de Pergame au verset 15. Ainsi tu en as toi aussi qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, pareillement. Ainsi, il semble que c'est une fausse doctrine qui prend naissance déjà à Éphèse. Et remarquons qu'elle n'est pas mentionnée dans l'église de Smyrne, là où il y a l'épreuve, où il y a la tribulation, où, semble-t-il, les cœurs se tiennent davantage près du Seigneur, il n'est pas question de cette mauvaise doctrine. Mais alors elle réapparaît dès que la discipline semble levée. Et il nous est dit, non plus des œuvres, mais c'est devenu une doctrine. Tu as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, pareillement. Alors je voudrais demander aux frères, en quoi consiste cette doctrine des Nicolaïtes? Est-elle en relation avec ce que nous avons à la page précédente, à l'épître de Jude et au verset 4? Car certains hommes sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître, et Seigneur Jésus-Christ.
C'est justement pourquoi hier, à la fin de notre entretien, j'ai évoqué le Nouvel Âge. À l'époque où les sept lettres aux Églises a été écrite, à la fin de ce premier siècle, il y avait en effet des gnostiques. Et on peut dire ici, quant aux Nicolaïtes, en rapport avec Éphèse, que ce sont ceux qui abusent de la grâce et qui tombent dans la licence. Et c'était bien ce que faisait la gnose à l'époque. Cette philosophie qui avait surgi et qui était à la fois idolâtre et immorale. Elle, en fait, c'était le mélange, un mélange voulu par les tenants de cette doctrine, d'éléments du judaïsme, d'éléments du christianisme et d'éléments de la philosophie grecque, surtout de Platon. Et avec cela, il y a eu tout un courant antichrétien qui s'est manifesté, et nous voyons combien les apôtres ont dû lutter contre ce courant, que ce soit l'apôtre Paul ou que ce soit l'apôtre Jean. Et comme on vient de le noter, à Pergame, maintenant, c'est devenu une doctrine. Et c'est donc une secte qui tournait la grâce de Dieu en dissolution, comme on vient de le voir en rapport avec l'épître de Jude, et qui associait une profession de foi, chrétienne dans un sens, une fausse profession de foi chrétienne, avec une vie de relâchement et d'impiété. Et on peut dire que nous n'avons pas seulement à considérer les temps anciens, mais que actuellement cette doctrine ressurgit dans notre Europe occidentale et également dans l'Amérique du Nord, en particulier depuis plusieurs années. Et il faut en parler un peu. Mon intervention désire être courte, parce que s'il y a une médecine curative, il y a aussi une médecine préventive. Et je crois qu'il faut là parler dans ce sens en prévention. Donc, cette nouvelle philosophie qui s'est répandue en Occident maintenant, qu'est-ce qu'elle associe ? Ce nouvel âge, cette nouvelle religion mondiale, car les tenants de cette religion désirent qu'elle soit mondiale. Eh bien, on peut dire que c'est le syncrétisme qui revient. On voudrait mélanger toutes les religions. Mais essentiellement, l'hindouisme et le bouddhisme, donc ce qui vient de l'Orient. Et depuis déjà bien des années, nous savons combien ces formes de religion ont pénétré peu à peu dans la chrétienté, l'hindouisme et le bouddhisme. Puis, il y a donc, en fait, la philosophie gnostique, dont je viens de parler tout à l'heure, qui comprend donc des éléments de christianisme. Et en troisième lieu, pourrions-nous dire, la théosophie, philosophie spiritualiste, absolument antichrétienne, et qui remonte déjà à bien deux générations. Eh bien, tout cela forme un ensemble, et on parle de Jésus, mais on ne parle pas du Seigneur Jésus que nous connaissons dans les Écritures, mais comme un homme qui va revenir et va favoriser cette religion mondiale. Voilà où nous en sommes dans la société occidentale aujourd'hui. Il faut le savoir, c'est certainement une résurgence de cette doctrine des Nicolaïtes. Alors soyons en garde, et qu'est-ce que nous avons pour nous assurer dans la vérité ? C'est la parole de Dieu.
Conduit sur le chemin de l'apostasie. Vous savez qu'il y a un écrit que nous avons souvent cité, de JND, à l'égard de la suite chronologique des églises, sans doute, c'est une réalité, mais il fait remarquer quelle est la suite de Philadelphie, d'un témoignage confié au siècle dernier à des croyants fidèles. Quel est le danger de Philadelphie, à proprement parler ? Vous voyez bien ce que nous voulons dire. Philadelphie, je suis riche, je n'ai besoin de rien, j'ai acquis un relief au milieu des nations. Vous voyez, je suis paré, rien ne me manque. Ce n'est pas le langage qui nous convient. À la fin d'une économie, dans la faiblesse la plus grande, ce n'est pas tout à fait le langage qui nous convient. Sans doute l'esprit de la Odyssée peut être se glisser dans le cœur. Mais comme témoignage, ce n'est pas possible que Philadelphie passe à Laodicée. Alors ce cher serviteur dit, quel est le danger de Philadelphie, le danger du témoignage aujourd'hui? Nous venons de l'entendre, les hommes iront de mal en pis, étant séduits, séduisant et étant séduits. Eh bien le danger c'est l'apostasie. Et il y a un verset précisément qui donne le sens d'apostasie dans le psaume 100. On l'a déjà répété plusieurs fois, mais il est toujours bon de revenir sur cette expression pour nous montrer le danger qu'elle comporte pour le témoignage. Et qui pourrait affirmer, chers amis, que nous avons échappé à ce danger? Voyez dans ce psaume 101, le Seigneur parle du trône, du règne à venir, à l'égard duquel je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial. Je hais la conduite de ceux qui se détournent. Et à la note D, vous avez ceux qui se détournent, ailleurs aussi apostats. Donc, le Seigneur éprouve de la haine pour ceux qui se détournent, autrement dit pour ceux qui sont apostats. Eh bien, tous les courants religieux du jour, et ceux qui ont été évoqués devant nous, sont bien connus, sont sustentés par des besoins, par des ressources considérables. L'ennemi est à l'œuvre, l'ennemi ne manque pas d'argent pour propager sa fausse doctrine, mais tout cela nous conduit à l'apostasie, nous conduit, chers amis, à la phase de l'Église finale dans l'Apocalypse. Cette femme qui va s'asseoir sur la bête et qui va remplir le monde de son rayonnement. Vous savez que, c'est encore JND, il pourra dire, à un moment donné, dans l'histoire du monde, puisque nous sommes arrivés à Thyatire, il faut savoir que l'église de Pergame, on peut dire qu'elle se situe jusqu'au 6e siècle, de l'ère de Constantin jusqu'en l'an 600. À partir de l'an 600, nous avons la primauté de l'église de Rome, le premier pape. Le pape, c'est le nom qui a été donné à l'évêque de Rome, qui s'appelait, ce Grégoire, donc, le serviteur des serviteurs de Dieu, adoptant une humilité feinte pour obtenir cette prépondérance sur l'église à partir de Rome, qui a commencé au 6e siècle et qui dure jusqu'à maintenant. Alors, chers amis, ce courant qui était déjà introduit dans Pergame et duquel on a parlé aujourd'hui, nouvelle forme d'activité de l'ennemi, introduisant des fausses doctrines qui nous amènent à des aberrations épouvantables, parce que Satan commence d'abord par nous aveugler avant de nous inscrire dans un mauvais chemin. Il ne faut pas oublier cela. Eh bien, l'activité de cet adversaire qui est à l'œuvre, chers amis, elle a commencé donc il y a déjà longtemps, mais elle ne fait que se développer, que se manifester de plus en plus. Et précisément, cette doctrine des Nicolaïtes, elle se base sur un terrain, elle sort d'un terrain duquel elle a pu germer. C'est le terrain qui fait germer la doctrine. Vous voyez, pour qu'il y ait une fausse doctrine, il fallait d'abord qu'il y ait une vérité. On ne redoute pas de rencontrer des faux billets de 4000 francs, parce qu'il n'y en a pas. Mais on a bien le danger à l'égard de billets de 5000 francs, qui sont des pièces, des marques, des manifestations d'une bonne monnaie, et que l'on, à l'égard de laquelle les faussaires s'emploient à nous donner ce qui est faux, ce qui est sans valeur. Donc il fallait qu'il y ait une vérité pour qu'il y ait une erreur. Il fallait d'abord un abus de la vérité, une inquiétante disposition de certaines parties de la vérité sur laquelle l'ennemi s'est employé et a tramé une erreur là-dessus. Et puis, cela est devenu une doctrine à partir de la base essentielle, morale, physique, matérielle, la doctrine a jailli. Et dans l'église de Thyatire, nous sommes dans ces temps sombres. Et je dis encore que, à l'égard de cette maison, cette assemblée, JND a dit, Eh bien, le protestantisme n'a pas été capable de faire échec à l'Église de Thyatire, à son développement. Nous comprenons bien cela. Le protestantisme qui s'est effiloché, qui a perdu sa vigueur, n'a pas pu être la barrière à opposer au développement de Thyatire ou du catholicisme, l'Église romaine apostolique catholique, mais elle n'est ni l'une ni l'autre après tout. Mais il dira, et c'était déjà en 1845, voyons la perception de ses chers frères du commencement, eh bien Dieu, dit-il, va susciter le socialisme, une doctrine basée sur les besoins matériels des masses pour se dresser contre les abus que ce catholicisme a entraîné dans son sillage social et dans les conditions épouvantables qui ont été celles de nos pères dans ces régions où nous vivons, par exemple, où de pauvres fillettes descendaient dans la mine à un âge épouvantable. Eh bien, le protestantisme n'a pas été en mesure de faire échec à ses dispositions à la fois religieuses et à la fois matérielles, les deux choses étant liées ensemble. Et Dieu allait susciter le socialisme, et comme cette vue de l'esprit était juste, pour s'opposer au développement de cette femme et donner un peu de répit, donner un peu de soulagement aux populations qui souffraient sous son joug, bien qu'elle se présente comme une femme douce, comme une femme qui peut enjôler, qui peut cajoler et qui peut introduire par ses manières les plus douces, tout en étant les plus cruelles, pensons à l'Inquisition, qui peut introduire par son rayonnement, par sa manière d'être, les erreurs les plus mortelles.
Donc le Seigneur commence à s'adresser à cette assemblée de Thyatire. Et jusqu'à maintenant, nous avons vu que quand il s'adresse à ces différentes assemblées, il est fait allusion à la manière dont il s'est présenté dans le chapitre premier, à la vision qu'il y a dans le chapitre premier. Et ici, dans la manière dont il s'adresse à l'assemblée à Thyatire, il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas dans le chapitre premier. Il se présente comme le Fils de Dieu. Et alors que dans le chapitre premier, la vision de Jean, c'était quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, au verset 13 du chapitre premier. Il se présente comme le Fils de Dieu, celui qui a ses yeux comme une flamme de feu, alors ça correspond au chapitre premier, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Le Fils de Dieu, celui qui a l'autorité sur sa maison, en contraste avec la manière dont dans Thyatire l'autorité du Seigneur a été changée. On a mis un homme qui a l'autorité, et puis on a mis aussi la femme Jézabel. C'est l'Église qui enseigne, c'est l'Église notre Sainte Mère, l'Église, qui est là à la place de l'autorité de celui qui est le Fils de Dieu. Et puis, il a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Il n'a pas changé, et avec son œil, ses yeux comme une flamme de feu, il va manifester tout ce qui n'est pas conforme à sa sainteté. Et quand on lit la suite de cette lettre à Thyatire, la manière dont il va dénoncer ce qui n'est pas conforme à la sainteté du Fils de Dieu. Alors il va commencer, comme on a toujours vu jusqu'à maintenant, « Je connais tes œuvres ». Et ce qu'il dit au verset 19 est absolument remarquable. « Ton amour, ta foi, ton service, ta patience, tes dernières œuvres qui dépassent les premières. » Un dévouement que le Seigneur reconnaît. Et ce qu'il y a d'encourageant, c'est que, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, quelle que soit, en fait, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, dans ce milieu-là, et dans le monde dans lequel nous vivons peut-être, eh bien, le Seigneur sait reconnaître ceux qui sont fidèles. Il n'est pas injuste, comme il dit à l'Épître aux Hébreux, pour oublier votre foi et l'amour que vous avez montré pour tous les saints. Il n'est pas injuste. Et peut-être que dans le monde dans lequel on est, dans la vie que nous vivons, dans l'Assemblée, peut-être qu'on pourrait parfois se décourager, dire voilà, le mal va de plus en plus grand, voilà, il y a de plus en plus de difficultés, alors on va baisser les bras, on va perdre courage. Mais non, restons tout près du Seigneur, de celui qui est le Fils de Dieu, attachons nos cœurs à celui qui nous aime pour lui être fidèles. Alors ça c'était peut-être un peu une digression par rapport au chapitre, mais pourtant moralement, il faut que nous apprenions dans ces différentes épîtres à tirer les leçons pour nous-mêmes. Rester fidèle au Seigneur, ce n'est pas parce que tout autour de nous il y a de l'infidélité que cela peut excuser notre infidélité, mais nous attacher au Seigneur Jésus, nous attacher à sa parole pour lui être fidèle.
Avec les quatre dernières églises, nous avons quelques remarques générales que nous pouvons formuler. Tout d'abord, ce qui apparaît très nettement, c'est l'annonce de la venue du Seigneur. Elle n'est pas annoncée de la même manière pour chaque église. Il y a tantôt un encouragement pour ceux qui vivent cette vérité et parfois un avertissement très solennel comme à Sardes. Le deuxième point, c'est que un résidu est distingué de l'ensemble, déjà Thyatire, sous cette expression que nous avons remarquée sans doute au verset 24, « Mais à vous, je dis aux autres qui sont à Thyatire, aux autres, ils sont distingués de la masse. » Ce qui signifie que toute restauration de l'ensemble n'est pas recherché par le Seigneur. Il va avoir au sein de cette masse un résidu qui lui est précieux, qu'il se plaît à distinguer et qu'il va honorer en l'invitant à la victoire. Et c'est ce que nous avons, la promesse du Seigneur précède cette fois-ci l'avertissement solennel que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Cette parole qui était adressée dans les trois premières églises à l'ensemble n'est plus adressée dans les quatre dernières qu'au résidu. Et on peut dire que les quatre premières églises nous présentent l'histoire complète de la chrétienté jusqu'à la fin. Et les trois dernières sont des résidus issus de Thyatire. Quant à la présentation du Seigneur comme le Fils de Dieu, la première fois que cela est révélé en quelque sorte d'une manière précieuse, c'est quand le Seigneur, en Matthieu 16, interroge ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et aussitôt, Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée. » Donc, le Seigneur, présenté comme Fils du Dieu vivant, Fils de Dieu lui-même, va bâtir son assemblée. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Nous voyons qu'elle sera préservée par le Seigneur, malgré tous les orages qu'elle aura à subir. Et c'est sur cette parole de Pierre que Jésus donne cette révélation concernant cette assemblée qu'il bâtit lui-même, alors qu'à Thyatire, on prétend la bâtir sur un homme. Combien tout cela est erroné. L'erreur est là, manifeste. Et alors, ce Fils du Dieu vivant, il y a deux points que nous pouvons souligner, que nous rapporte d'ailleurs Jean comme évangéliste. La première chose, c'est qu'il donne la vie, il la communique Jean chapitre 5. D'ailleurs, la vivification est attribuée aux trois personnes de la déité, comme nous le savons. Eh bien, il est dit là que le Père vivifie et le Fils vivifie. Chapitre 5 de l'évangile de Jean, verset 21. Et de même aussi, le Fils vivifie ceux qu'il veut. Voilà. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y aura, un peu plus loin, la résurrection de vie. Il y a aussi la résurrection de jugement. Deux faits annoncés par le Seigneur, il y aura deux résurrections. La résurrection de ceux qui sont morts dans la foi au Seigneur Jésus, c'est une résurrection de vie, verset 29, et la résurrection de jugement pour tous ceux qui sont morts dans leur péché. Et cette vérité-là, elle est intangible, elle est divine. C'est Jésus qui communique la vie, et il la communique en abondance selon ce qui est exprimé en Jean 10. Autre point, au chapitre 8 du même évangile, nous voyons une autre pensée concernant le Fils, c'est que il nous donne la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merveilleuse grâce que celle-là, lorsque nous y accédons. Cette liberté que nous avons en Christ, cet affranchissement par la vérité qui, au fond, est une personne vivante, Jésus, le Fils de Dieu. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est le merveilleux travail de sa grâce. Dieu ne se contente pas de nous sauver. Il veut que nous soyons libres de toute servitude. Servitude du monde, servitude de la chair, servitude du moi, servitude de la loi. Tout cela tient l'homme, même s'il est croyant, en esclavage. Par contre, cette vérité qui s'impose au cœur et à la conscience et qui est toute centrée dans la personne adorable du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, nous affranchit. Et c'est tout l'enseignement de Paul concernant cette merveilleuse vérité. À savoir que il peut dire, Galates 2:20, comme nous le savons, passage bien connu, mais toujours précieux à considérer, « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et cette délivrance-là, avec ses aspects multiples, est une bénédiction très particulière que nous procure la foi au Fils de Dieu.
Continuant avec l'expression « le Fils de Dieu », une question se pose qui a été posée par le Seigneur Jésus à l'aveugle né qu'il avait guéri. Dans Jean 9, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Voilà une question qui peut être posée ce matin à une âme ici. Reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. L'aveugle né est chassé dehors et il doit faire l'expérience que pour suivre le Fils de Dieu, qui lui aussi est chassé dehors du système religieux juif jusqu'au moment où il sera mis à mort, eh bien il doit suivre Jésus, le Fils de Dieu. Et une décision est à prendre à l'égard de celui que peut-être nous connaissons aujourd'hui comme sauveur, mais qui nous pose la question « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Recevoir de lui l'énergie pour être entraîné à sa suite dans sa réjection. Le Seigneur est mis dehors d'un système qu'il ne reconnaît pas. Nous devons accepter aussi, pour le suivre de près, d'être dehors avec lui.
Dans cette église de Thyatire,
c'est que le Seigneur est oublié. Le Seigneur régnant sur les cœurs. On voit Jézabel, on voit tout un tas de personnages, tous les enfants de Jézabel qui donnent des règles, qui établissent des traditions. Où est le Seigneur là-dedans? Le Fils de Dieu est oublié. Et c'est la raison pour laquelle il se manifeste sous ce caractère, parce que le résidu, un résidu dont on voit que le Seigneur reconnaît les œuvres, des œuvres brillantes, des œuvres qui témoignent de l'amour, de la foi, remarquable situation de ces âmes qui tranchent justement dans ce milieu si noir, si sombre. Mais le Seigneur, dont le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme de feu, le distingue. Et il est bon que le résidu sache que quelqu'un, que le Fils de Dieu lui-même, voit les caractères de leurs œuvres. Le deuxième caractère que possède cette Église, c'est qu'elle règne sur le monde. Elle règne sur le monde. Elle régnera encore davantage quand elle prendra les croyants ayant été enlevés par le Seigneur lui-même, quand elle prendra ce caractère de Babylone. Elle montera sur la bête, nous est-il dit, dans la première demi-semaine prophétique de la fin. Elle règne sur le monde. Alors que Pergame était protégée du monde, une étape supplémentaire est franchie, elle règne sur le monde. Elle défait et fait les souverains, nous le savons. Nous savons que les plus grands empereurs ont dû venir, en quelque sorte, obtenir la légitimation par le pouvoir de Jézabel. Quelle chose extraordinaire! Quelle distance par rapport à ce que le Seigneur attendait de son Église, lui qui avait été rejeté. Le troisième caractère, c'est qu'il y a un résidu qui s'en est séparé. C'est d'ailleurs un caractère que l'on trouve dans les églises qui suivent aussi. Le quatrième caractère, c'est que le mal règne. Ce n'est pas la maison de Dieu. Comment est-il possible qu'il y ait la maison de Dieu là où il y a des idoles, où il y a la fornication, comme nous le voyons au verset 20, par exemple, où il y a une sorte de prostitution? Comment est-il possible que ce soit la maison de Dieu? Et pourtant, on se prétend maison de Dieu. Le caractère du Seigneur, comme il se présente comme Fils de Dieu, avec ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain brillant, sont bien de nature pour le résidu, pour les âmes fidèles. N'oublions pas qu'elles sont là, les âmes. Il y a des âmes fidèles au milieu d'une telle corruption, pour que les âmes fidèles comprennent que ceci n'échappe pas au Fils de Dieu, n'échappe pas à son regard scrutateur. L'avant-dernier caractère que nous remarquons, c'est l'importance des œuvres. Certainement, et nous reconnaissons là le caractère de l'Église catholique romaine où les œuvres ont la plus haute importance, des œuvres que le Seigneur reconnaît pour certaines d'entre elles, les œuvres de ceux qui ont la vie, au verset 19, mais aussi des œuvres que le Seigneur ne reconnaît pas dans la suite, notamment au verset 22, entre autres. Les œuvres sont particulièrement jugées importantes, et nous savons qu'elles ont été ajoutées, dans la doctrine catholique comme étant nécessaires pour le salut de l'âme. Combien cela est triste, combien cela mérite d'être stigmatisé par le Seigneur lui-même. Et enfin, et ceci est peut-être encore le plus important, parce que nous avons bien rappelé l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas jugée comme la seule vérité. On y a ajouté la tradition. Et ceci est particulièrement stigmatisé au verset 20, où il est dit « Tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse, et elle enseigne. » Et la doctrine catholique est effectivement de dire et de prétendre que la vérité, la révélation de la vérité ne s'est pas arrêtée aux apôtres, mais s'est poursuivie par des traditions qui ont été transmises par voie orale. Et nous comprenons tout le risque que cela représente, et nous comprenons toute la séduction que cela peut entraîner. Eh bien, le Fils de Dieu, qui est la parole même, comme il se présente lui-même dans l'évangile de Jean, est là pour rappeler à son résidu que c'est lui qui est la parole, c'est lui qui a été cette parole faite chair, et il n'y a qu'en lui qu'est véritablement la vérité. Combien cela est nécessaire, combien il est nécessaire de le rappeler à ceux qui se trouvent au milieu d'un tel tissu d'erreurs. Et nous devons être attentifs, parce que cette Jézabel, qui est donc le corps professant qui n'a pas la vie et qui se met en avant, le corps clérical, cette Jézabel, nous est-il dit, elle enseigne et égare. Elle a donc une grande capacité, un grand pouvoir de séduction, de conviction. Et nous savons que nous devons être très attentifs à ne pas nous laisser prendre par ce pouvoir séducteur. Et il est périodiquement des croyants qui tombent, qui sont séduits par la puissance de séduction de cette Jézabel. Ne croyons pas que nous sommes à l'abri par des lectures que nous pourrions faire ou des fréquentations que nous pouvons avoir. Ne croyons pas, nous en avons fait la terrible expérience dans certaines assemblées, ne croyons pas que nous soyons véritablement à l'abri de ce pouvoir de séduction. Ne présumons pas de nos forces.
Donc, on vient de le voir, Jézabel, cette institution établie, ce système, a la prétention à l'autorité pour enseigner et pour exposer et appliquer la parole. Et aussi une autre prétention à l'infaillibilité. C'est très grave. Parce que, bien sûr, selon les Écritures, nous voyons que l'Église reçoit la parole, elle garde la parole, mais elle n'enseigne pas. Qui enseigne au milieu de l'assemblée? Eh bien, ce sont les serviteurs, les pasteurs, les docteurs. Et la parole est annoncée dans le monde par les évangélistes. Voilà comment l'Écriture nous présente l'enseignement. Il y a eu les apôtres et les prophètes qui ont posé le fondement doctrinal, sur Christ lui-même, le vrai fondement, le roc, et maintenant les serviteurs enseignent.
À propos des œuvres, comme on vient de le voir, si on lit notre texte, au verset 19, le Seigneur dit aux résidus, je connais tes œuvres, ce que tu fais. Au verset 22, il parle de Jézabel et il dit à moins qu'il ne se repente de ses œuvres, les œuvres de Jézabel. Au verset 23, il parle à l'ange de l'assemblée qui est là et il dit, je donnerai à chacun selon vos œuvres. Et puis, au verset 26, pour celui qui vaincra, il dit celui qui gardera mes œuvres. Tes œuvres, ses œuvres, vos œuvres, mes œuvres. Quant à la femme Jézabel, peut-être que, quand on lit, j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel. Pourquoi ? Il dit la femme Jézabel. Tout le monde sait que Jézabel, c'est une femme. Pourquoi il insiste? C'est que, particulièrement, il y a quelque chose qui était là mauvais. Et on pense un peu à cette femme qui avait pris, dans Matthieu 13, qui met du levain dans la pâte. C'est un système mauvais. Et auparavant, il y avait les... ce qui est la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, une énergie pour entraîner le mal, et à Thyatir, le mal est devenu un système. Et cette femme, Jézabel, elle a des prétentions. Elle se dit prophétesse. Elle se prend pour elle-même, elle prétend être quelque chose. Ensuite, comme on l'a vu, se disant prophétesse, eh bien, elle applique ce qu'elle dit être, elle enseigne, dans le but d'égarer. Et ceux qui sont égarés, ce sont mes esclaves. Alors elle va égarer les esclaves du Seigneur, et elle va produire ensuite quelque chose. Elle a, au verset 23, des enfants, le fruit de ce système. Ces enfants-là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. C'est le résultat l'odieux résultat de la prostitution de Jézabel. Et peut-être que parfois, actuellement, c'est sûr que cette histoire de cette assemblée de Thyatire s'applique bien pendant toute l'histoire du Moyen-Âge et jusqu'en particulier au moment où il y a eu la Réformation, où Sardes va apparaître. Mais l'histoire continue et Jézabel n'a pas changé. Dans notre pays, on peut parfois connaître des chrétiens, des croyants qui sont dans ce système-là, tout à fait respectables et qui aiment le Seigneur, et puis on voit parfois les choses sont un peu cachées. Et même dans ces dernières années où il y a eu plus souvent l'occasion dans les milieux catholiques de lire la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a permis qu'il y ait un certain retour à la parole. Mais même parfois ce retour à la parole entraîne un retour à l'idolâtrie pour Marie. C'est quelque chose de terrible. On détourne, les âmes commencent à revenir vers la parole, et puis on va présenter un beau côté. Derrière ce paravent qui peut paraître juste, derrière ce paravent, il y a tout le reste. Et on ne peut pas prendre une partie en laissant le reste. C'est pas vrai. Et parfois, dans certaines régions, on a eu l'occasion d'être en Pologne, on est frappé parce que dans cette région-là, l'Église se présente, l'Église catholique se présente avec un jour qu'on ne voit plus tellement dans nos pays. Sauf si vous venez à Lourdes, dans les Pyrénées, là vous pourrez en voir. Mais quand même, c'est beaucoup plus caché. Mais pourtant, de nos jours encore, eh bien c'est tout à fait cette prostitution-là. Et pour ça qu'il faut être tout à fait sur nos gardes. Et puis, il y a une chose qui est impressionnante. Quel est le mot qui revient souvent dans les versets 21 et 22 ? Elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Et ça, c'est tellement vrai. Mais combien de siècles ? Depuis combien de siècles elle a l'occasion de se repentir ? Elle ne l'a pas fait. Et si actuellement, comme dit le Résultat, il parle des profondeurs de Satan, si d'une certaine manière, cette fornication, cette impureté est quelque chose qui est caché, cela va devenir tellement évident, d'une façon absolument évidente dans la Grande Babylone, où la fornication, on a fait allusion tout à l'heure, chapitre 17 de l'Apocalypse, où il y a cette femme qui est là sur deux bêtes, qui va éclater aux yeux de tous, et que Dieu va juger.
Dans un milieu aussi noir, aussi sombre, il y a quand même des traits de lumière remarquables. Remarquables. Comment est-il possible que des œuvres de l'amour, de la foi, du service, de la patience, citées au verset 19, puissent germer, puissent se produire dans un milieu aussi sombre? C'est la puissance de la vie divine. La puissance de la vie divine dans un croyant peut se manifester malgré l'environnement, malgré le désert que représente à cet égard cette église. Elle est d'ailleurs, quand elle prend le caractère de Babylone, vue dans un désert, signe bien manifeste de l'absence de nourriture. Eh bien, c'est dans ce désert que naissent ces fruits dont on peut remarquer qu'ils sont, à certains égards, plus éclatants que ceux d'Éphèse au verset 2 de notre chapitre. Il n'y a donc pas de quoi désespérer pour ceux qui ont la vie. Combien cela nous encourage, nous qui portons quelquefois dans nos cœurs ces croyants qui vivent dans ces milieux, sans que nous puissions, car le Seigneur seul le peut, les soustraire à cette influence pernicieuse, qu'il est encourageant de penser que le Seigneur les soutient, que le Seigneur leur donne. Car c'est lui le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui donne la liberté, comme cela nous a été dit, leur donne la capacité de ne pas être égarés. Et pourtant, ils n'ont pas l'énergie d'en sortir. Quel mystère pour nous. Mais le Seigneur le sait. Et il est remarquable, c'est le deuxième remarque que je voulais faire, que nous trouvons au verset 19 les deux grands éléments du christianisme, à savoir la foi et l'amour. Il manque
l'espérance. Il y manque l'espérance. Le Seigneur est-il indifférent à cette absence? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il promet aux résidus fidèles de Thyatire? Qu'est-ce qu'il promet? Il promet cette espérance brillante de l'étoile du matin, verset 28. Il lui promet cette étoile du matin. Ceux qui ont veillé dans une nuit aussi obscure, ceux qui ont été dans les ténèbres de ce catholicisme, ceux qui ont été dans cet obscurantisme, car tous ces mots s'appliquent à cette Église, même maintenant, comme on nous le fait remarquer, dans certains pays, et il ne faudrait pas grand-chose pour que cela renaisse chez nous, bien sûr. Eh bien, tous ceux qui ont veillé dans ces conditions si difficiles, le Seigneur leur promet l'étoile brillante du matin. Et effectivement, nous rencontrons dans ces milieux des âmes qui ont cette espérance, qui ont cette vision du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que dans sa grâce et dans sa puissance, il ait pu produire dans des conditions aussi terribles des signes de vie aussi manifestes.
L'Église s'est lassée d'être étrangère ici-bas. Elle a voulu régner. Elle s'est donc détachée de son Seigneur. Et ceci est très solennel et nous invite particulièrement à nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Parce que le premier point que le Seigneur reproche, c'est qu'elle a laissé faire. La femme Jézabel, sans doute, un état de choses apparent, constitué, un système établi solidement, eh bien, le fait de laisser faire est très préjudiciable à la vie d'une assemblée. Et nous revenons à ce qui a été dit hier encore sur l'importance des surveillants et des anciens dans une assemblée. Car nous ne pouvons pas être indifférents devant le mal. Le Seigneur ne l'est jamais. Il peut tout pardonner, mais il tient compte de tout selon les lois rigoureuses de son gouvernement. Et nous voyons que l'état de choses va en empirant. Les ténèbres s'obscurcissent de plus en plus. Dès qu'on laisse faire, il y a perte de discernement. L'exemple typique, c'est celui de Samson en particulier. Lorsqu'il a livré son secret, il a tout perdu. Il a perdu sa liberté, il a perdu sa vie, il a perdu sa vue, c'est-à-dire son discernement, et il a perdu sa vie. Il a tout perdu. Et s'il avait veillé sur son cœur, sur les convoitises de son cœur, eh bien, il aurait gardé sa puissance. Et dans le croyant, il y a une puissance qui est à l'œuvre, c'est celle du Saint-Esprit qui opère par la parole. De même, la présence du Saint-Esprit dans l'assemblée nous permet de discerner ce qui est incompatible avec la sainteté de celui qui est le Fils de Dieu. D'où l'extrême importance d'être exercé quant aux moindres apparitions du mal. Nous devrions être même exercés à l'égard de l'apparence du mal. Nous sommes extrêmement vulnérables, mais nous avons des ressources parfaites et toutes suffisantes. La parole, le Saint-Esprit, la présence du Seigneur demeurent malgré la ruine. Dieu ne change pas. Et c'est ce qui peut nous encourager. Et nous regrettons beaucoup cette expression qui nous humilie de penser qu'il y a là les esclaves du Seigneur au sein de cette assemblée. Remarquons cette expression, esclave. C'est à dessein que le Saint-Esprit a choisi ce mot. Mes esclaves, ce sont ceux qui n'ont aucune volonté propre, qui sont soumis normalement à leur maître. Et ces esclaves-là sont égarés par la femme Jézabel, à partir de son enseignement. Et nous connaissons tous d'authentiques croyants à Thyatire, des purs, des vrais. Peut-être qu'ils nous feraient honte par ce qu'ils font, par leur dévouement pour le Seigneur, avec très peu de connaissances, mais le cœur est attaché au Seigneur. Certains même jouissent de leur salut par grâce. prêtre a osé nous dire une fois, il y a longtemps que nous avons abandonné le salut par les œuvres. Il était peut-être l'unique en son genre, mais il se reposait simplement sur la foi en Jésus pour être sauvé. Il est beau de voir ces éléments-là au sein de cette obscurité briller comme des étoiles. Et le Seigneur nous réserve des surprises. Ceux qui peut-être ont été les plus privilégiés, eh bien, seront manifestés comme ayant peu fait fructifier le talent qui leur a été confié. Alors que ceux qui, avec moins, beaucoup moins de connaissances et de lumière, auront été fidèles à ce qui leur aura été enseigné, eh bien, le Seigneur relèvera cela en son jour, pour sa gloire et la satisfaction de son cœur. Et alors, il y a les autres qui sont là, séparés de ces profondeurs de Satan. Il y a là un terme très significatif, profondeur de Satan. Il y a une relation directe avec Satan. Et Satan est toujours derrière la scène. Et ce qu'il vise le plus, ce sont ceux qui font partie du témoignage du Seigneur. Ne nous faisons pas d'illusions. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ménagés par Satan parce que nous avons une moindre résistance à sa séduction. Nous sommes sans doute moins séparés du monde que ne l'étaient les générations qui nous ont précédés. D'où certaines souffrances liées inévitablement à cette infidélité. Que la grâce nous soit faite aussi de tenir compte de ce qui plaît au Seigneur, de ce qui lui est agréable. Il y a des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais il en est qui sont excellentes. Et c'est quand nous sommes pénétrés de la pensée de Christ à travers l'Écriture que nous pouvons discerner ce qui plaît à son cœur, non seulement dans nos vies individuelles, mais dans la vie de l'Assemblée. Et il est important qu'il y ait dans une Assemblée des portiers qui ne laissent pas faire les choses n'importe comment. Car Dieu, un signe caractéristique de la présence de Dieu dans une Assemblée, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Donc, le mal moral est rejeté et les fausses doctrines aussi. Et quand une fausse doctrine apparaît au milieu de nous, eh bien, nous sommes peut-être moins vigilants pour la cerner que lorsqu'il s'agit d'un mal moral. Et nous devrions avoir le même zèle pour juger les choses selon la pensée du Seigneur et nous séparer du mal en nous humiliant, non pas comme des pharisiens, mais en nous jetant sur nos faces et en reconnaissant que ce qui nous arrive, nous en sommes responsables, tous. Et le Seigneur ne peut qu'avoir égard à l'état d'un cœur brisé et humilié devant lui. Nous trouvons par un tel état le chemin de son cœur. Le Seigneur est sensible à notre humiliation lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle est profonde et qu'elle se manifeste par un vrai repentir, c'est-à-dire que nous rejetons le mal et que nous nous appliquons avec son aide, par sa grâce, à faire le bien. Mais ces autres qui sont là sont tout à fait remarquables. Ils ne pactisent pas avec le mal, ils sont là dans le système et n'ont pas d'autre lumière, mais le Seigneur en a besoin. Et il les maintient là. Considérons-les comme de chers frères et sœurs en Christ, sans pouvoir aller avec eux, bien sûr. Nous pouvons, si l'occasion nous en est donnée, lire la parole avec eux, puisqu'il a été fait allusion à cette liberté qui existe, qui est réelle, et nous sommes quelquefois surpris, en lisant simplement la parole, de voir que ce sont peut-être ceux qui montrent la plus grande intelligence spirituelle, en lisant simplement l'Écriture avec eux, que ceux qui appartiennent au système de Sardes, qui sont plus froids, plus indifférents quant à la vérité, qui pensent avoir un illustre passé et qui se fourvoient complètement quant à la réalité des choses, les concernant. Mais là, il y a dans cette Thyatire encore quelques cœurs qui aiment le Seigneur, que nous aussi, nous ne leur cédions pas le pas, pour ainsi dire, et que vis-à-vis de l'Assemblée dans laquelle nous sommes, nous soyons de ceux qui montrent qu'ils aiment le Seigneur et qui s'appliquent à reconnaître ses droits sur leur cœur. Ce ne sont pas nos sentiments qui doivent l'emporter. Si qui nous laissons gagner par des sentiments naturels, par des relations de famille, eh bien nous sommes perdus quant à la bataille à livrer. Ce qui compte, quelle est la pensée de Christ partout et en tout temps. Que la grâce nous soit faite d'honorer le Seigneur comme il en est digne.
J'aimerais ajouter deux points en rapport avec les assemblées locales, justement, et la responsabilité qui est la nôtre, frères et sœurs. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que les serviteurs enseignent, c'est en relation, bien sûr, avec les dons spirituels que le Seigneur a donnés à son assemblée. Éphésiens 4, verset 11, « Lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. En vue de quoi ? En vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. La pensée de l'édification. L'apôtre Paul vient nous dire, en parlant aux Corinthiens, chapitre 14, en relation avec la réunion d'assemblée pour l'édification, en rapport avec les dons qui se manifestent, que tout se fasse pour l'édification. Verset 26. Et à cet égard, nous avons une responsabilité, chacun, pour apprécier l'enseignement qui est donné dans l'assemblée locale tout d'abord. Et si nous ne faisons pas face, nous sommes certainement infidèles. Parce que tout de suite après, l'apôtre ajoute, toujours dans le même chapitre 14 de la première aux Corinthiens, au sujet des prophètes, que les prophètes parlent, deux ou trois, et que les autres jugent. Et dans l'original, cela signifie que les autres apprécient, qu'ils apprécient ce qui est donné comme enseignement. Et les autres, eh bien, c'est tous les frères et sœurs qui sont là, qui ont l'Esprit de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité. Par conséquent, et nous avons la parole. Donc, il faut bien apprécier si ce qui est dit est conforme à l'Écriture, comme le faisaient les chrétiens de Bérée au début, quand Paul les enseignait. Et à cet égard, n'est-ce pas, nous avons une responsabilité très importante. Ceci pour l'enseignement qui est donné et qui doit être donné, bien sûr, comme on vient de le remarquer, dans l'humilité, que les serviteurs soient humbles et s'appuient sur l'Écriture. Ensuite, on a évoqué un instant les anciens dans une assemblée locale. Et cela est bien lié à ce que nous avons ici, en rapport avec la femme Jézabel, parce que la femme Jézabel, c'est la condition produite par l'action du clergé. Et j'aimerais relire un passage qui était devant nous très brièvement, parce que cela aussi est en rapport avec l'assemblée locale. Il y a un enseignement donné dans l'assemblée locale, et nous avons apprécié cet enseignement, selon l'Écriture, avec l'Écriture que nous possédons, et par l'Esprit de Dieu, et puis il y a aussi une charge locale, celle d'anciens, qui est une charge locale, un service accompli localement dans chaque assemblée. Et les différents passages que nous avons, 1 Timothée 3, et en particulier Tite 1, chapitre 1er de Tite, nous montrent bien que c'est une charge locale, mais qu'il n'y a pas qu'un seul ancien. Il ne devrait pas en être ainsi, en tout cas. Il y a des anciens, et il y a certainement des frères dans chaque assemblée locale qui présentent les caractères qui nous sont donnés dans ces passages concernant les surveillants ou les anciens dans la première à Timothée et l'épître à Tite. S'ils ne les ont pas tous, au moins qu'ils aient à cœur de manifester ces caractères toujours mieux, de façon à ce qu'ils puissent être utiles au milieu de leurs frères et sœurs. Alors, ceci, c'est en revenant à la première épître de Pierre, qui était devant nous hier, je voudrais faire remarquer ceci, c'est que nous avons au chapitre 5, au sujet des anciens, au verset 2, « Et c'est le troupeau de Dieu, le surveillant, un peu plus loin, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. » Et c'est le mot « héritage » ici, en grec, qui a donné le mot clergé, kléros. C'est la même racine. Et nous voyons donc comment cette pensée de dominer sur des héritages a pu donner le clergé qui s'est manifesté, bien sûr, d'une manière très visible dans l'Église romaine. Mais il y a là, en même temps, pour nous, comme on le disait tout à l'heure, une exhortation. Une exhortation. Parce que qu'est-ce qui va faire que nous allons discerner que nous avons des anciens dans une assemblée locale? Eh bien, c'est leur qualification. Un ancien n'est pas nommé. Un ancien ne peut pas être nommé ni par d'autres anciens, comme cela se pratique parfois dans la chrétienté, même souvent, ou bien même par une église locale. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? C'est ce que certains font sur le plan des églises. N'est-ce pas? Nous connaissons l'assemblée, expression du corps de Christ, et ce n'est pas ainsi que nous devons procéder. Seuls les apôtres et leurs délégués directs ont, comme nous voyons dans Tite, ont établi des anciens. Nous pouvons les reconnaître d'après les qualités morales qui sont tout à fait, sont inscrites très nettement dans l'Écriture. Et j'aimerais à cet égard faire remarquer deux qualités ou trois qualités que nous trouvons dans l'Épître à Tite. Il est dit que l'ancien doit être, verset 7, il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. Le sentiment qu'il administre de la part de Dieu, qu'il gère ce que Dieu a de plus précieux, c'est-à-dire son assemblée locale, n'est-ce pas? Et l'assemblée expression de l'assemblée corps de Christ. Non a donné à son sens, cela rejoint ce qu'on disait tout à l'heure quant à la possibilité des sentiments qui peuvent intervenir, c'est-à-dire mettant en avant son propre sentiment sans tenir compte de la pensée des autres. Et puis un peu plus loin, nous avons verset 8, hospitalier, aimant le bien, sage, voilà un caractère précieux. La sagesse, et c'est bien ce qu'on va d'abord désirer reconnaître dans un conducteur, n'est-ce pas? C'est justement cette sagesse, car il ne s'agit pas chez un ancien essentiellement de l'âge, mais de la sagesse. De la sagesse et de la piété et de la spiritualité. Eh bien, c'est cela qui va faire qu'une autorité morale va se dégager, n'est-ce pas, et qui va découler d'une vie exemplaire. Alors voilà, nous désirons tous qu'il puisse y avoir cette saine administration. Encore faut-il que les frères ne laissent pas simplement les années se succéder aux années, mais qui désirent avoir les caractères pour ceux qui sont appelés de la part du Seigneur, et cela, le Seigneur le fait sentir, n'est-ce pas, dans l'humilité, non pas pour s'élever, mais pour servir et être humble aux pieds de ses frères et sœurs, que ces frères-là, en prenant de l'âge, prennent en même temps les qualités que l'apôtre Paul donnait à connaître à Tite et à Timothée. Alors j'insisterai donc sur cette sagesse, et en particulier je rappellerai que cette sagesse, elle va se lier très étroitement à la spiritualité, justement à l'influence de l'Esprit de Dieu, puisque nous avons dans la deuxième à Timothée, chapitre 1er, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance et d'amour et de conseil. Eh bien, le mot conseil ici, dans l'original, c'est sophronismos. Et ça signifie le sobre bon sens, la sûreté de jugement. Voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce dont les anciens ont besoin, cette sûreté de jugement, qui s'apparente à la sagesse, c'est la même racine dans le grec, n'est-ce pas? Voilà ce qui est bien nécessaire, et que tous ensemble, ainsi, soit en relation avec l'enseignement, soit en relation avec cette charge si importante d'anciens, qui demande beaucoup d'humilité aussi de la part de l'ancien, car cela doit être bien souligné au chapitre 5 de la première de Pierre, n'est-ce pas? C'est pas seulement les jeunes gens qui doivent être vêtus d'humilité dans leur soumission aux anciens, mais c'est aussi les anciens qui doivent être vêtus d'humilité. Et voilà donc des éléments qui vont permettre une vie d'assemblée heureuse, dans l'amour, dans la vérité, n'est-ce pas? On aura du respect pour les frères anciens, qui pourront être des modèles de piété et de spiritualité. On respectera leur expérience acquise avec le Seigneur dans sa communion.
Puisqu'il a été question de la parole, combien il est heureux aussi que dans les assemblées, les anciens soient entourés d'hommes, qui aient le caractère d'hommes faits, qui se nourrissent de la parole, comme cela est rappelé dans Hébreux, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal, je lis Hébreux 5. Quiconque use de lait est inexpérimenté. Donc, on est soit inexpérimenté ou on acquiert de l'expérience. Et combien ceux qui ont le caractère d'anciens, qui sont reconnus comme tels dans une assemblée locale, combien ils seront aidés dans ce qui leur est confié s'ils sont entourés d'hommes faits. C'est une habitude à discerner le bien et le mal. Qui peut discerner le bien et le mal? Le Seigneur le discerne. Nous l'avons vu ici dans ses épîtres, il connaît, il sait. Et si nous sommes en communion avec le Seigneur, eh bien nous aurons aussi le discernement du Seigneur. Et dès les premiers éléments d'une fausse doctrine, dès les premiers éléments d'un mal moral et doctrinal, eh bien, il n'y aura pas seulement que l'ancien qui pourra le discerner, mais plusieurs frères le discerneront. Combien il est dommage lorsque nous adoptons les principes du monde dans la vie de l'Assemblée, et nous désirons dire qu'aujourd'hui, hélas, s'il y a un ou deux frères qui ont le discernement de la pensée de Dieu et qui voient un mal surgir et qui par amour avertissent, on en viendrait à dire « Ah mais il y en a 10 autres qui voient autrement, donc c'est eux qui ont raison ». Gardons-nous des principes du monde dans la vie d'une assemblée locale et pensons que par un ou deux frères seulement, le Seigneur peut donner sa pensée. Et d'ailleurs, lorsqu'il est parlé d'Antipas, il est dit « il a été mis à mort ». Ce terme est, nous y pensions hier, « il a été mis à mort parmi vous ». Est-ce qu'au figuré, nous ne mettons pas, lorsque nous sommes adonnés à nos sens, à des vues qui ne sont pas selon la parole de Dieu, est-ce qu'au figuré, nous ne pourrions pas mettre à mort ceux qui sont des fidèles témoins au milieu de nous?
Prenons bien garde, si nous démissionnons sur ce plan, s'il y a une carence sur le plan de cette reconnaissance d'une autorité morale que le Seigneur maintient dans son assemblée. Eh bien, alors, bien sûr, comme on l'a évoqué aussi l'autre jour, ceux qui ont reçu un tel service vont risquer de le faire, comme on le voit à la fin de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Normalement, les anciens, les conducteurs qui enseignent, n'est-ce pas? Eh bien, il est dit au verset 17, afin qu'il fasse cela avec joie. Normalement, c'est avec joie que l'on sert dans l'assemblée locale, et non en gémissant, et non en gémissant. Et puis, il y a aussi cette autre grave conséquence possible, c'est qu'il y aurait la constitution d'un clergé même parmi nous. Prenons garde, n'est-ce pas? Nous risquons, par notre démission, les uns ou les autres, de donner une charge beaucoup trop lourde à certains de nos frères, et alors on va facilement à ce moment-là les critiquer. Mais que chacun reste à sa place, dans son assemblée locale, qu'il assure son service. Et si chaque chose sont ainsi vécues harmonieusement, selon la parole de Dieu, dans chaque assemblée locale, il y aura beaucoup moins besoin d'intervention extérieure, n'est-ce pas? On aura moins besoin de faire appel au conseil de tel ou tel frère, et les choses se régleront dans l'amour et dans la vérité, dans l'assemblée locale, en reconnaissant aussi l'autorité qui parfois ne se manifeste pas suffisamment dans les assemblées locales. Et alors, on pousse à un clergé, nous l'avons bien tous remarqué dans les assemblées, on pousse à un clergé, mais ceux qui sont hélas parfois poussés en avant l'ont beaucoup regretté, et nos devanciers l'ont dit aussi dans le passé.
tire du sujet, quoiqu'il est bon quand même de s'en tenir à des faits essentiels dont l'Église a tiré. D'abord, nous rappeler que le Seigneur affirme un titre particulier, incomparable, celui par lequel il s'associe l'Église. Le passage de Matthieu 16 a été rappelé tout à l'heure, « Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée », c'est-à-dire sur ce qu'il est lui-même, le Fils de Dieu. Le Seigneur rappelle donc, et il le fera dans ses lettres particulières, dans les quatre dernières, en raison avec l'état particulier de chaque Église, le droit qu'il a à s'associer l'Église, à l'avoir pour son domaine, en opposition avec une femme dont nous avons trois exemples dans le Nouveau Testament, dira G.N.D., et qui s'insinue précisément dans le domaine propre qui appartient au Seigneur. Il y a d'abord cette femme dans Matthieu 13, elle dissimule son action, introduit cachément du levain dans la pâte. Il y a ici Jézabel, qui était une femme fardée, dont l'histoire est abominable. Elle gouverne son mari, elle règne sur le domaine de Dieu, à Samarie, et elle propose à son mari de posséder l'héritage d'un vrai croyant en échangeant quelque chose qui semblait pouvoir plaire à Naboth le Jizréélite. Il n'avait pas voulu, ce cher croyant, vendre la possession qui lui revenait de l'héritage de Dieu. Et cette femme va s'employer à transférer cet héritage de Dieu dans le champ, dans les propriétés de son mari, et donner un subterfuge à ce pauvre homme. Puis, nous savons comment elle va s'employer à faire couler le sang pour assumer sa domination. Souvenons-nous des prophètes mis à mort. Elle fait partie précédemment de ces prophétesses. C'est pas sans raison que dans le livre du prophète Ézéchiel, à la veille de l'effondrement du royaume de l'Éternel, nous lisons « Toi, fils d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur propre cœur. » Belle image de cette Jézabel qui se dit prophétesse et qui, comme ses filles, au moment de la fin où tout est en désordre, ont trouvé les conditions pour s'introduire et prophétiser selon leur cœur en se déguisant. Cette femme Jézabel se pare de phare, change sa figure, modifie ses yeux. Image d'une femme fatale, dangereuse. Il y a donc cette femme qui va périr de la façon que nous connaissons bien, la pire qui soit. Il y aura un homme doué d'un caractère exceptionnel qui va la faire jeter par la fenêtre et son sang sur un témoignage en relation avec les crimes qu'elle a commis. Donc, dans cette lettre, nous avons l'Église qui est aux prises maintenant avec ce danger mortel dans son sein, c'est-à-dire une femme qui se dit prophétesse et qui enseigne. Faut tirer des leçons, et on l'a dit souvent, sans évidemment porter la moindre atteinte aux qualités d'une sœur, une sœur pieuse qui peut rendre beaucoup de services. Mais d'autre part, quand une femme se mêle des choses de Dieu dans l'assemblée, quand elle veut se mêler de l'administration de Dieu, elle fait toujours un mauvais travail. Il n'y a pas d'exception. Donc c'est un danger mineur sans doute, mais un danger sur lequel nous avons à veiller. Il y a des femmes qui sont très habiles, qui sont prolixes et qui savent intervenir pour modifier les choses, influencer leur mari, mais ce n'est pas un rôle qui lui revient. Nous n'allons pas nous étendre sur ce domaine, mais il en est bien ainsi. Vous savez bien que la position que Dieu donne, elle est exemplifiée par l'homme. Et la manière dont on s'acquitte de la position, c'est une femme. Et la femme dans ce domaine est toujours un exemple négatif. Ce n'est pas très populaire de dire cela, mais c'est tout à fait vrai. Rappelons, chers amis, serait-il sage de l'oublier ou de ne pas le dire, qu'il faut affirmer qu'une femme peut avoir des qualités exceptionnelles qui dépassent celles d'un homme, de son mari. Ça peut arriver. Mais alors, elle les emploiera dans le cadre que Dieu a fixé. Et vous savez bien que nous avons un exemple dans la parole de Dieu, un exemple remarquable, c'est-à-dire un couple, Aquila et Priscilla. Aquila est cité trois fois le premier et Priscilla est cité trois fois la première. Mais quand il s'agissait de choses officielles, de choses d'assemblée, c'est Aquila qui était en tête. Et quand il s'agissait de dévouement, de poser son cou sur le bilot pour avoir le cou tranché par amour pour la vérité, c'est elle qui était la première. Donc Dieu montre bien l'équilibre dans ce foyer. Ce qui revenait à l'homme, ce qui revenait à la femme. Vous savez, cette femme de qui nous parlons de Vatican, parlons du pape, parlons de Jean 23, comment parlait-il? Avec une ruse diabolique pour s'insinuer, pour faire fléchir les résistants. Je suis, comment disait-il? On se rappelle de cela. Je suis votre frère, je suis Joseph. Oui, cela donnait à rire, mais selon, pour les gens peu instruits, chers amis, c'était une chose extraordinaire que ce pape prenait cette attitude bonasse et venait dire aux protestants, je suis Joseph, vous m'avez beaucoup fait de peine, mais maintenant je reviens à vous. Vous voyez, chers amis, la duplicité, la ruse de ces hommes. Sans penser, sans dire quoi que ce soit, chers amis, du côté caché. Et en terminant, nous pouvons dire que ce qui a été dit, ce qui a été écrit plusieurs fois, jamais, jamais, au nom de l'écuménisme, si prôné soit-il dans les milieux protestants qui ont capitulé, qui ont accepté le joug indirectement de ce que l'écuménisme apporte, sous l'autorité de cette femme, parce qu'elle a dit « Jamais nous n'abandonnerons, en vue de l'écumélisme, aucun des dogmes que nous avons établis. » Et ce Seigneur dit de lui-même « Voici ce que dit le Fils de Dieu. » Il ne dit pas « Voici ce que dit le Fils de Marie. » Vous savez que les catholiques n'ont pas craint de modifier la parole de Dieu dans un sens. Comment le Seigneur répond-il à sa mère? Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Si vous lisez une Bible catholique, mon ami, qu'y a-t-il entre moi et toi, ma mère?
Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentît. Et quand il n'y a pas de repentance, ce qui reste, c'est le jugement. Et ça, c'est tout à fait solennel. Quand le Seigneur nous parle et qu'il parle à notre conscience, il attend aussi que nous soyons attentifs et que nous sachions nous repentir quand cela est nécessaire. Pour la femme Jézabel, elle ne veut pas se repentir et elle aura le jugement. Mais pour le résidu, mais à vous, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, autant qu'il y en a, il ne va pas en oublier un. Mais il va aussi parler à chacun. Vous qui n'avez pas cette doctrine, soyez attentifs, il dit à Thyatire. Et il va non pas leur demander plus que ce qu'ils ont. Je ne vous impose pas d'autres charges, mais ce que vous avez, tenez-le ferme. Et ce qui est dit là, il est bien clair que cela s'adresse aussi à chacun de nous. Le Seigneur nous demande de tenir ferme ce que nous avons. Il ne va pas nous demander des comptes sur ce qu'il ne nous a pas confié, mais il va nous demander des comptes sur ce qu'il nous a confié. Ce que vous avez, tenez-le ferme. Combien de temps? Un jour? Deux jours? 10 ans? Toute votre vie? Non, jusqu'à ce que je vienne. Et ce qui est devant nous, ce n'est pas la fin de notre vie. C'est comme tout à l'heure, on l'a vu, c'est cette espérance, le retour du Seigneur. Et une petite anecdote, je me souviens, mon grand-père, j'avais 20 ans, il avait reçu une lettre d'un frère qu'il aimait beaucoup, un frère suisse, qui avait, alors pour quelqu'un qui a 20 ans, qui avait, je crois, 85 ans. C'était, pour moi, je voyais un vieillard. Et il m'avait fait lire cette lettre. Et ce frère était visiblement sur son lit de mort. Et vous savez de quoi il parlait tout le long de cette lettre, du retour du Seigneur. Et je me disais, mais ce qu'il va mourir, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il y avait dans le cœur de ce frère, c'était le retour du Seigneur. Et c'était une grande leçon. Parce qu'en fait, ce qui est devant nous, c'est son retour. Ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et il y a une chose aussi, je m'écarte un peu du texte, qu'il attend de nous, que nous fassions chacun de nous ici, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est se souvenir de lui à sa table.